Bonjour à tous. Merci à l'équipe de louanges ce matin. J'aimerais prendre cette occasion pour vous remercier pour tous ceux qui ont souhaité leurs condoléances à mon épouse. Elle a perdu sa maman dernièrement et puis juste dans le temps des fêtes. Alors, ça a été des fêtes un peu particulières. Donc, merci à tous ceux qui ont pris vraiment le temps. Alors, on a reçu plusieurs courriels et messages et téléphones. Alors, c'est vraiment apprécié. Dernièrement, je lisais un livre qui vient de sortir, en fait, il y a 2 semaines. Je l'ai reçu avant la publication, ou du moins avant la distribution. Alors, ça m'a donné l'occasion vraiment de lire ce livre. Et ça s'appelle « Zéler pour Dieu ». En fait, l'auteur a été missionnaire à différents endroits dans le monde, et puis notamment en Afrique. Et il a fait un recueil de témoignages de gens qui ont propagé l'Évangile un peu partout et qui ont été des témoins, vraiment des témoins assez efficaces et puissants pour l'Évangile, à répandre le message de l'Évangile. Alors, comme je vous disais, l'auteur lui-même a été en Afrique, a été au Burundi, et puis il raconte qu'au Burundi, on a des frères et des sœurs à l'église qui sont ici, attachés à cette église. Alors, on les apprécie beaucoup et on les aime. Et lui a été missionnaire au Burundi, et quand il était là, il raconte qu'il y avait plusieurs embuscades de rebelles, et c'était une stratégie qu'ils voulaient faire peur. Alors, ils attaquaient parfois les gens. Et c'était une stratégie pour faire peur dans la région. Alors, il raconte une de ces histoires, à un moment donné, où il y a eu une embuscade. Il y avait un autobus, puis il y avait plusieurs personnes dans l'autobus. Et là, tout d'un coup, il y a des rebelles qui arrivent pour s'emparer de l'autobus. Alors, il y a des gens qui sont sortis, mais il y en a 2 qui se sont enfuis. Et puis, une femme et un homme, les 2 ne se connaissaient pas. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une femme qui était d'âge mûr et assez imposante, physique imposante. Donc, elle part à courir et elle saute dans le fossé. Alors, vous pouvez imaginer, elle saute comme ça, mais ça donne qu'elle tombe sur le dos. Alors, elle est comme ça, étendue par terre. Elle ne peut pas bouger. Alors, le visage devant le ciel. Et parce qu'elle ne veut pas bouger, parce qu'elle ne veut pas alerter les rebelles qui sont juste à côté, pas loin, elle reste là. Mais il y avait un homme qui la suivait, il ne se connaissait pas, c'était un pasteur. Alors, il part à courir lui aussi, puis il la suit, puis il se lance comme ça dans les airs, et il tombe sur elle comme ça. Littéralement, le visage à quelques centimètres d'elle. Alors, les 2 sont comme ça, un en face de l'autre, et puis il est couché sur elle, il ne peut pas bouger, ils ne veulent pas faire de bruit. Mais voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, il a dit, vous avez besoin d'accueillir Jésus dans votre cœur. On va mourir. Vous avez besoin d'être prête pour passer à l'autre côté et mourir, pour savoir où est-ce que vous en allez après la mort. Maintenant, les 2 ont survécu, heureusement, puis ils ont raconté cette histoire, et puis ça a été justement écrit dans ce livre, « Zélé pour Dieu ». Mais c'est vraiment beau de voir des gens qui prennent au sérieux ce côté de témoignage, de répandre vraiment le message de l'Évangile, qui prennent au sérieux ce message qui est si important. Et je pense à des gens comme M. Keefe. Je me rappelle M. Keefe qui a été missionnaire pendant plusieurs années ici au Québec. Et puis, il était vraiment bien connu ici. C'est un des pionniers au Québec qui a amené l'Évangile, qui a implanté des églises aussi. Mais je me rappelle, il a passé ses dernières années ici, dans la région de Gatineau. Et puis, dans les dernières semaines, vraiment avant qu'il décède, il était à l'hôpital dans une chaise roulante, et puis on allait le visiter, puis on poussait la chaise roulante, puis il nous parlait. Et avant, même alors qu'il était presque sur son lit de mort, il était encore en train de parler, il me racontait, il dit, « Normand, j'ai partagé l'Évangile à une telle, j'ai partagé l'Évangile à un tel. » Vraiment, moi, je suis reparti chez nous, j'étais tellement édifié, touché aussi de voir à quel point il avait la compassion des âmes. Et ce qu'on va voir à travers les prochaines semaines, nous allons commencer une nouvelle série dans le livre des Actes. Et le livre des Actes est vraiment particulier. C'est incroyable, c'est extraordinaire ce qui se passe là. C'est la naissance de l'Église. Et on va parcourir ce livre magnifique à travers les prochaines semaines, les prochains mois, où on entend plusieurs témoignages. On va voir justement des gens qui ont amené l'Évangile un peu partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est un livre assez particulier. Son caractère est particulier. Premièrement, c'est le livre de référence qui nous donne, qui nous explique, qui nous montre l'expansion de l'Évangile. Et sans le livre des Actes, vraiment, on n'aurait pas tous les détails qu'on a sur la naissance de l'Église, sur l'Église primitive. On pourrait peut-être un peu capter ici, là, à travers les lettres de Paul, quelques indices, mais c'est vraiment le livre des Actes qui nous donne des détails sur la naissance de l'Église. Si bien que tout le reste du Nouveau Testament s'accroche au livre des Actes. Et le livre est très important parce que, dans le fond, si tu comprends le livre des Actes, tout le reste va suivre et tu vas mieux comprendre le reste du Nouveau Testament. C'est aussi un livre qui comprend quelques thèmes tout à fait extraordinaires, entre autres l'œuvre du Saint-Esprit à travers la naissance, l'enfance, l'adolescence de l'Église primitive. Les Actes forment aussi un contrepartie, un contraste parfait avec les quatre évangiles. Vous savez, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous avez après ça le livre des Actes. Maintenant, le livre des Actes fait un contraste, c'est frappant. Par exemple, dans les évangiles, Jésus offre sa vie, mais dans les Actes, il offre sa puissance. Dans les évangiles, c'est les semences originales du christianisme. Et dans les Actes, c'est la croissance continue de l'Église. L'Église est en mouvement. Les évangiles nous parlent du Christ crucifié et ressuscité. Les Actes nous parlent du Christ qui est élevé et qui est exalté. Les évangiles nous montrent la vie chrétienne telle qu'elle a été vécue par l'homme parfait, alors que le livre des Actes nous montre la vie chrétienne telle qu'elle a été vécue par des gens imparfaits. C'est Kent Hughes qui dira, « Le livre des Actes est particulièrement important pour nous car il nous apprend à vivre une vie qui est stimulante, passionnante. Il nous montre comment faire en sorte que notre vie compte. Il nous montre comment vivre et expérimenter la puissance de Dieu. » Le livre parle de force, de possibilités, d'influence, de libération et de compétences surnaturelles exercées par la foi avec efficacité. Il nous montre qu'on peut faire l'expérience de la victoire. Dieu a fait de grandes choses à travers le livre des Actes et il continue à faire de grandes choses ici même dans notre Église. Et il l'a fait pendant plusieurs années, quarantaine d'années maintenant que l'Église existe. Mais on a soif pour plus. Amen. On a soif de voir Dieu à l'œuvre et faire de belles choses ici, dans la région. Le Seigneur n'a pas fini vraiment d'accomplir son œuvre. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le Jésus ressuscité est le même qu'on sert aujourd'hui. On veut être une Église active, une Église qui est vivante par l'Esprit Saint de Dieu. La foi chrétienne est une foi de puissance, la foi surnaturelle où le Christ ressuscité nous habite de la puissance de la résurrection. Maintenant, le livre des Actes va s'ouvrir l'introduction de ce livre est très importante. Alors, moi, j'aimerais vous encourager à tourner au premier chapitre du livre des Actes, alors que ce livre des Actes va s'ouvrir maintenant sur trois fondements qu'on va voir ce matin. Alors, juste avant, avant de lire ce passage, laissez-moi juste se courber et on va prier. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on s'apprête à amorcer tout un voyage au cours des prochains mois dans ce livre magnifique où ton Esprit Saint est à l'œuvre et change des vies, transforme des vies. Seigneur, on est excité de voir tout ce qui se passe et toute cette œuvre de régénération, cette œuvre miraculeuse qui a eu lieu à travers ce livre des Actes. Et Seigneur, on sert le même Jésus que ses apôtres et ses disciples ont servi il y a plusieurs années. Et on veut voir, Seigneur, ton œuvre s'accomplir dans toute la région. On veut voir la parole de Dieu saturer la région de Gatineau et toute la francophonie. Cette parole, ce message de l'Évangile, on veut la prêcher, la présenter, l'offrir en parole et en action. Alors on te prie, Seigneur, qu'à travers cette série, ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs, qu'il puisse réveiller nos cœurs, que tu puisses susciter un réveil puissant dans toute la région, Seigneur, afin que les gens puissent se tourner vers toi. C'est un miracle. Chaque conversion est un miracle. Et on te demande, Seigneur, ce miracle, d'effectuer ce miracle de nouvelle naissance dans toute la région, au beau nom de Jésus. Amen. Alors, on tourne, si vous voulez bien, dans Actes chapitre 1, et on va lire les 11 premiers versets. Actes 1 à 11. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils leur demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Le livre des Actes s'ouvre vraiment nous donnant trois fondements solides et irréfutables pour notre foi. Le premier fondement que nous allons voir ensemble et qu'on a besoin de regarder ensemble, c'est l'exactitude irréfutable du livre des Actes. L'exactitude irréfutable du livre des Actes. Vous savez, la parole de Dieu est inspirée. C'est inspiré par Dieu. La Bible est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui a inspiré chaque parole, chaque message et tous les mots qui sont dans ce livre. C'est un livre surnaturel. C'est un livre divin. C'est Dieu qui nous donne son message. D'ailleurs, dans 2 Timothée 3,16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, soit complété, littéralement dans l'original, soit complété, ce qui manque. Vous savez que le monde est brisé par le péché, mais la parole de Dieu a cet effet en nous de nous compléter, nous remplir, de nous transformer de plus en plus vers la maturité et nous équiper pour de bonnes œuvres. Et c'est le cas avec le livre des Actes, un livre inspiré. C'est une histoire inspirée, la naissance de l'Église, un voyage, un temps qui va couvrir, le livre des Actes va couvrir environ une trentaine d'années, 30 à 35 ans. L'auteur du livre des Actes, c'est Luc, un médecin, un scientifique. Et il commence en parlant de son premier livre, qui est l'Évangile de Luc. Voici ce qu'il dit au verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il écrit à un homme du nom de Théophile, Théophile qui veut littéralement dire ces deux mots, celui qui aime Dieu. Et il y a des théophiles ici, pas vrai? Des gens qui aiment Dieu. Alors si vous aimez Dieu, vous êtes un théophile. Et nous avons des théophiles vraiment ici, qui a rempli l'Église. Et on veut gagner d'autres personnes qui viendront à Jésus, ils deviendront des théophiles. Et Luc a été méticuleux. Ce n'est pas une fable. Il dit, voici ce qui s'est passé pour que ta foi soit solide, Théophile, pour que tu saches exactement ce qui s'est passé. Et le livre des Actes est d'une exactitude irréfutable. Ce livre que nous lisons couvre 32 pays, 54 villes, 9 îles, et il cite des noms, 95 leaders, avec leur titre, leur vrai titre, leur position ou leur autorité. C'est un livre qui est juste et qui est précis. D'ailleurs, Adrien Nicholas Sherwin White de l'Université d'Oxford, qui n'est pas un chrétien, n'est pas un croyant, là. Et c'est un expert de l'Empire romain, un expert de la ville de Rome et de tout ce territoire et cette région et cette époque. Et il a lu et examiné à la loupe le livre des Actes pour voir si c'était précis. Et voici sa conclusion. Il est de l'Université d'Oxford. Il dit, le cadre historique est exact en termes de temps, de lieu et de détails. Ils sont tous précis et corrects. En tant que document, ces récits appartiennent à la même série historique que le dossier des procès provinciaux et impériaux et les sources épigraphiques et littéraires du premier et du début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Pour ce livre des actes, la confirmation de l'historicité est absolument écrasante. Toute tentative de rejeter ce livre sur la base de l'historicité, même dans les plus petits détails, doit maintenant paraître absurde. Les historiens romains ont longtemps considéré la vérité de ce livre comme allant de soi. C'est le premier fondement, l'exactitude irréfutable du livre de Luc. Nous avons également les preuves irréfutables de la résurrection de Jésus. Verset 3. Luc poursuit en donnant de nouvelles informations sur Jésus une fois ressuscité. Et voici ce qu'il dit au verset 3. Il dit, « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants en leur donnant de nombreuses preuves. » Nombreuses preuves, des preuves qu'il était ressuscité, des preuves irréfutables qu'il était bien en vie après sa crucifixion. Il continue en disant, « Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Luc est le seul auteur qui nous donne, qui nous dit que le ministère de Jésus-Christ, une fois ressuscité, a duré 40 jours. Jésus est apparu, il a montré plusieurs signes miraculeux, tout en instruisant ses disciples sur le royaume de Dieu. Et ça devait être extraordinaire. Imagine, tu parles avec Jésus, ressuscité, qui est revenu après la mort. Incroyable. Moi, j'aurais aimé ça être là avec les disciples et les apôtres. La discussion devait être géniale. L'apôtre Paul et les Épîtres nous diront que Jésus est même apparu à des centaines et des centaines de personnes. Même en une seule fois, il est apparu à 500 personnes. En même temps, là, 500 personnes. Et c'est intéressant parce que 30 ans plus tard, Paul va écrire une lettre et il va dire, certaines de ces personnes qui ont vu Jésus ressuscité sont encore vivants. Vous pouvez aller les voir et leur parler et leur questionner. Et c'est ça la puissance de Dieu. Non seulement qu'il a souffert, qu'il est mort, mais il est revenu à la vie, il a donné des preuves irréfutables qu'il était bien en vie. Et c'est ce que la puissance de Dieu désire de faire parmi nous aujourd'hui, que par la transformation, que l'Esprit veut produire dans ma vie, dans ta vie, par son fruit, par ce que Dieu va faire en moi et dans ta vie, que toi aussi tu deviennes une épître vivante, que les gens pourront regarder et dire « Jésus est définitivement vivant ». Nous avons donc l'exactitude irréfutable du livre des Actes. Nous avons les preuves irréfutables de la résurrection de Jésus. Nous avons le besoin irréfutable aussi du Saint-Esprit. Le besoin irréfutable de la puissance du Saint-Esprit. Verset 4. « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ça, c'est intéressant parce que les disciples doivent attendre. Jésus dit « Attendez ». Attendez, vous n'êtes pas prêts. Et pourtant, ça fait 3 ans que les disciples passent avec Jésus. Ça représente environ 26 000 heures de formation, d'entraînement. C'est toute une école, ça. C'est tout un séminaire théologique. Les disciples ont été formés, équipés. Et ce voyage a été un voyage tout à fait extraordinaire. Imaginez être avec Jésus. Vous entendez non pas la parole d'un homme, mais vous entendez la parole de Dieu. 3 ans à marcher avec Jésus. 3 ans à recevoir cette parole. 3 ans à voir Jésus faire des miracles, des guérisons. Parfois, Jésus rentrait dans des villes, certaines villes où il est entré. On a emmené tous les malades et Jésus, lorsqu'il quittait ce village, tout le monde était guéri. Même les gens qui avaient la COVID, tout le monde était guéri. Il n'y avait plus un seul malade lorsque Jésus quittait ces villes. 3 ans où les disciples ont vu l'amour de Jésus se déverser sur les gens. 3 ans à entendre cette parole de Dieu. 3 ans à recevoir une formation incroyable, intensive, la meilleure formation que les gens pouvaient recevoir. Et cette formation venait de Jésus lui-même. Et Jésus Après ça, a même confié une mission. Donc, ils ont la formation, puis ils ont la mission. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est la mission de faire de toutes les nations des disciples. Il y a un évangéliste qui a dit ceci. Premièrement, le monde est à l'envers. Deuxièmement, on doit renverser le monde et le mettre à l'endroit. Troisièmement, nous sommes ceux qui doivent le remettre à l'endroit. Et c'est le but de l'évangile. C'est le plan de Dieu de remettre les choses à sa place. Et comment tu fais ça? C'est en faisant des disciples. Les disciples reçoivent donc cette mission. Ils reçoivent cette formation pendant 3 ans et après ça, ils reçoivent ce mandat, cette mission que Dieu leur a confiée, que Jésus leur a confiée dans Matthieu 28. Elle est faite de toutes les nations des disciples. Mais là, tout d'un coup, ils ont la mission, ils ont la formation, mais là, Jésus leur dit, mais attendez, allez pas annoncer l'Évangile tout de suite, là. Vous n'êtes pas prêts. Il vous manque quelque chose. En fait, il vous manque quelqu'un. Il vous manque une personne. Et c'est le Saint-Esprit. Il vous manque le Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est fascinant de parcourir le livre des Actes et de voir la Trinité qui agit, qui est à l'œuvre à travers tout le livre des Actes. Certains appellent ça les Actes des apôtres, ce livre, les Actes des apôtres, mais on pourrait aussi bien l'appeler les Actes du Saint-Esprit. On pourrait aussi appeler ça les Actes de Jésus du ciel qui agit. On pourrait appeler cela les Actes du Père aussi qui agit pour son Église. Ce sont les Actes de Dieu pour son Église et on voit Dieu à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans les 4 évangiles, il est à l'œuvre dans le livre des Actes, là où on voit la naissance de l'Église, et il est à l'œuvre aussi aujourd'hui parmi nous. Dans le royaume de Dieu, par sa puissance, il n'y a jamais de parole sans puissance. Il n'y a jamais de communication sans que Dieu donne la capacité d'accomplir ce qu'il nous confie. C'est la puissance surnaturelle de Dieu. Le livre des Actes est un mouvement de croissance. Les Actes expliquent l'arrivée, la plénitude, l'accessibilité, la promesse de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme, d'une femme qui œuvre, qui s'ouvre et s'abandonne à son esprit dans l'obéissance. Vous savez, la parole de Dieu, Jésus a dit à un moment donné à ses disciples, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et c'est vraiment intéressant parce qu'il passe finalement, il parle du Saint-Esprit, chapitre 14, Jean 14, 15, 16, 17. Et à l'intérieur d'un court passage, un moment donné, il dit « Demeurez en moi. » Il va dire 11 fois, 11 fois. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois ta mère te répète des choses, ton mari, ta femme te répète des choses. À un moment donné, tu viens tanner. Dans l'espace d'un court passage, il dit « Demeurez en moi. Demeurez en moi. » Là, vous vous demandez si je vais aller à 11, hein? Demeurez en moi. 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 Et vous savez quoi? Demeurez en moi. Ça veut dire quoi, ça? C'est d'obéir. Demeurez en moi, c'est la même chose que d'obéir au Seigneur, obéir à sa parole. Il dit, obéissez à mes commandements, suivez mes commandements. C'est ça que ça veut dire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez porter du fruit. D'ailleurs, Jésus donne une image à ses disciples pour qu'ils comprennent. Il dit, je suis le cep, vous êtes le serment, demeurez en moi. Si vous êtes en moi, vous allez, forcément, vous allez porter du fruit. Et ce fruit vient du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, dans notre vie, c'est juste des règles à suivre. C'est un fardeau, c'est lourd et on se sent toujours coupable à essayer de suivre la parole de Dieu parce qu'on n'est pas parfait, on est des gens imparfaits, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible d'ailleurs de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est illimitée, c'est immuable. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus a dit, particulièrement alors qu'il s'en allait vers la fin de son ministère, lorsqu'il s'en allait souffrir et mourir, il a dit à ses disciples, écoutez, il est avantageux que je m'en aille, c'est à votre avantage que je parte afin que l'Esprit Saint puisse envoyer le Saint-Esprit. Voyez-vous, je vais vous envoyer mon Esprit, dit Jésus à ses disciples. Il va être votre consolateur, il va être personnel, il va habiter en vous. Et si tu te trouves, si tu t'ouvres à lui, il va te garder, te protéger, te convaincre, te diriger, te consoler. Il va distribuer ses dons à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, pour que vous puissiez produire ses œuvres. Il va te consoler. Il va faire en sorte que tu traverses les épreuves avec cette paix divine, surnaturelle, indescriptible, inexplicable. la paix de Dieu qui va reposer sur nous alors qu'on traverse des temps difficiles. Nous serons portés, nous aurons cette portée divine que les gens ne peuvent pas comprendre. L'Esprit Saint fera des œuvres à travers toi et elles seront encore même plus grandes. Dans son incarnation terrestre, par choix, Jésus ne pouvait être juste à une place à la fois. S'il était dans une ville, par exemple, à Jérusalem, il ne pouvait pas être ailleurs. C'est par choix. Mais avec le Saint-Esprit peut être partout en même temps. Et Jésus vit par son esprit à travers des milliers de personnes en même temps à travers le monde. Voyez-vous, le livre des Actes n'a pas de fin. Tu regardes toutes les lettres de Paul et c'est comme dans chacune des lettres de Paul, tu vas avoir une salutation au début, comme on fait avec les courriels. Tu vois notre nom au début du courriel. Bien, Paul commence les lettres en s'identifiant. Il a cette introduction dans ses lettres. Il y a plusieurs lettres. Et vers la fin de la lettre de Paul, tu regardes les lettres de l'apôtre Paul, à la fin, il y a une salutation. Il dit « salut un tel vous salue ». Il y a cette conclusion, il y a une salutation qui est là. Mais lorsque tu arrives dans le livre des Actes a 28 chapitres, tu arrives dans le livre des Actes, tu arrives au bout, à la fin, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de conclusion. C'est comme si, oh, c'est comme s'il manquait un chapitre. Ça finit drôlement. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça continue. L'Église continue. Et toi, il y a 28 chapitres dans le livre des Actes. Et toi, ici, nous sommes le chapitre 29. Nous sommes acte 29, les amis. Amen. Hey, on n'est pas nombreux, il faut crier fort, là. C'est bon. J'aimerais ça vous entendre à la maison, là. C'est bon. Ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes de Jésus à travers nous et ça continue encore aujourd'hui. Nous sommes en train d'écrire une autre page des actes en 2021, des actions de Dieu à travers nous. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, qui va chambouler le monde entier. On voit le Saint-Esprit à l'œuvre à travers les actes. Plus de 50 fois, on va le voir à l'œuvre. Le Saint-Esprit est la puissance divine qui nous est communiquée, qui nous donne le pouvoir d'accomplir sa mission et mener une vie chrétienne qui va honorer notre Seigneur Jésus. La puissance de Dieu nous donne la capacité de connaître une vraie liberté. C'est l'élément où Dieu dit à chaque croyant, « Tu vas recevoir une puissance. » Et quel que soit ce qui te dominait avant de venir à Jésus, avant de recevoir le Saint-Esprit, cette domination, cette emprise, cette puissance sur toi, tu peux être libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux sortir de cette influence, de cette dépendance, par sa puissance, afin d'entrer dans ta destinée. Et c'est ça que le Seigneur veut. J'étais lié par des abus dans mon passé, mais maintenant je vais être libéré par sa puissance. Une enfance malheureuse, mais un espoir qui est miraculeux. L'amertume et la colère qui nous dominaient, qui me dominaient, maintenant l'amour de Christ nous libère. Moi, je me rappelle, avant de devenir chrétien, j'avais beaucoup de colère refoulée en moi. J'avais même l'air bête. Je me rappelle, je sortais avec Lise, on se fréquentait. En ce temps-là, on n'était pas mariés, puis on a fait une sortie un moment donné, puis j'étais chez mes parents à Duvernay, à Laval. Puis là, tout d'un coup, j'ai un couple. On avait organisé une sortie pour une fin de semaine avec un autre couple. Alors, le couple est venu me chercher. Puis, Lise était dans la voiture avec cette autre femme. Et la femme a regardé à travers la fenêtre, puis elle m'a regardé le visage quand je suis sorti de chez mes parents. Elle a dit, « Mon Dieu, il y a donc bien l'air bête. » Elle dit, « Tu sors avec ça? » Dit, ça, c'était moi, ça. C'était la colère en moi. J'avais la colère qui était refoulée depuis des années et tout ça. Mais voilà que le Seigneur, par l'amour de Christ, l'amour de Jésus-Christ, j'ai été libéré de cette colère, de cette amertume. Le Saint-Esprit nous guide, nous conduit, nous enseigne. Il est en nous. Il nous montre comment marcher dans la vérité. Il nous donne la force pour le faire. Le Saint-Esprit, c'est le GPS de Dieu qui l'a placé en toi pour te guider, te diriger. Et as-tu remarqué des fois, tu t'enlignes dans une certaine direction, puis là, c'est comme cette voix-là qui est en toi, et c'est comme le Saint-Esprit se sert de ta conscience pour te dire, non, va pas là, va pas là, ou regarde, va plutôt ici, ou va là. Et tu as cette manifestation du Saint-Esprit qui est dans ta vie. Et les disciples posent une question au Seigneur, verset 6, « Seigneur, est-ce ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Les disciples demandent à Jésus si c'est lorsqu'il recevrait le Saint-Esprit, si c'est là que Dieu, que Jésus était pour rétablir la nation juive, tout Israël, pour retrouver toute sa gloire et devenir un empire militaire très puissant. Eux pensaient encore, malgré ces 3 ans de formation, ils pensaient encore à un royaume terrestre où Israël allait renverser l'Empire romain et dominer sur les terres, sur les pays. Les Juifs attendaient la venue d'un Messie militaire. Et encore les disciples ici, ils ne comprennent pas trop. Voyez-vous, les rabbins du temps de Jésus, les chefs religieux de l'époque, déclaraient que le rétablissement de la situation politique d'Israël allait connaître un renouveau, allait retrouver vraiment toute sa place et sa puissance par l'action du Saint-Esprit. Mais les disciples n'avaient pas compris ce que l'Esprit se préparait à faire. Ce n'était pas le rétablissement politique d'Israël, mais bien la naissance de l'Église et le salut de millions de personnes à travers le monde, que ce soit des Juifs ou des non-Juifs. C'était la création d'une nouvelle communauté d'enfants de Dieu. Et verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça, ça appartient à mon Père. » Et verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici le verset 8, c'est vraiment le verset clé de tout le livre des Actes. Ça, c'est le noyau, le verset 8. Tout le reste est la réalisation de cette prophétie de Jésus, de cette annonce de Jésus. Voyez-vous, c'est ce qui va se produire à travers le livre des Actes, parce que les chapitres 1 jusqu'au chapitre 7, c'est le témoignage à Jérusalem. Chapitre 8 à 11, c'est le témoignage dans toute la Judée et la Samarie. Et chapitre 12 jusqu'au chapitre 28, c'est le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et chapitre 29, c'est le témoignage de Gatineau, c'est nous autres. Rien ne pourra arrêter l'Église de grandir et prendre l'expansion, rien. L'Empire romain a essayé de l'arrêter, de le faire arrêter, puis ça n'a pas marché. Écoutez bien ce commentateur expliquer la croissance de l'Église qui était phénoménale, puis que ce n'était pas normal, ce n'était pas naturel, c'est vraiment surnaturel. Ça dit, cette expansion de Jérusalem à Rome est l'histoire la plus remarquable de l'histoire. Humainement parlant, le christianisme n'avait rien pour lui. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de dirigeants avérés, ils avaient tué la tête, son conseil d'administration avait tous fui, il n'avait pas d'outils technologiques pour la propagande de la diffusion d'Évangile. Et elle se heurtait à d'énormes obstacles. C'était tout à fait nouveau. Elle enseignait des vérités incroyables pour le monde non régénéré. Elle était l'objet de la haine la plus intense, les persécutions les plus intenses et pourtant, il a enflammé tout l'Empire romain. Et ça continue dans le monde. Plus de 1 milliard de chrétiens évangéliques dans le monde entier. Des milliers de personnes qui viennent à Jésus-Christ à tous les jours. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et l'œuvre de l'Esprit, l'Esprit Saint veut toucher la multitude, veut toucher Gatineau et toute la région. C'est notre vision. On veut saturer la région de l'Évangile, en parole et en action. Et là, après ça, verset 9, Jésus s'élève dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés en blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et ça, c'est magnifique. Tu ne sauras pas, dit Jésus, tu ne saurais pas le temps et les moments de mon retour, mais en ce moment, concentrez-vous sur la mission. Et ça, c'est l'appel de Jésus. Et ne soyons pas secoués ou inquiets par ce qui arrive dans les nations. Dieu a tout ça entre ses mains, il est souverain, et c'est ce qu'on voit à travers tout le livre des Actes. Même dans Matthieu 28, Jésus a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et ce qui est frappant tout au long de ce beau voyage que nous allons parcourir dans le livre des Actes, un voyage qui s'étend jusqu'à 16 000 kilomètres pour répandre l'Évangile, on voit constamment Dieu, la providence de Dieu qui prend soin de son Église, qui est sur son Église. Alors, mes chers amis, le message qu'on veut ressortir ce matin, c'est bâtissons le royaume de Dieu, gagnons des âmes et voyons des vies changées pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Prions. Mes chers amis, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait déjà dans ces 40 quelques années de l'Église Le Sentier. Merci pour les nombreuses, les centaines de personnes qui sont venues à toi, qui ont connu le salut. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Où serions-nous aujourd'hui si ce n'était que de la puissance et l'intervention de ton Esprit Saint? On s'est perdu, Seigneur, très loin. Écrasé par la culpabilité ou simplement complètement indifférent, alors que tu reviens bientôt. Comme les anges ont dit, de la même manière que Jésus a quitté, il va revenir un jour. Tu vas revenir, Seigneur, et on veut emmener le plus d'âmes possible à tes côtés. C'est la mission que tu nous as confiée, Seigneur, et tu nous as donné toute la puissance dont on a besoin pour vivre une vie chrétienne qui va t'honorer et partager ton saint nom et être un témoin pour Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur. Amen.